Bon, écoutez, merci d'être ici encore. Moi, je suis Ima Tourenya, je suis de Barcelone, je suis catalane, comme vous avez pu comprendre. Je suis sociologue, je suis professeure de communication et j'étais présidente de l'université pendant sept ans, oui. J'étais présidente de l'université en ligne à Barcelone, 100% en ligne. Et je suis très préoccupée et ma recherche est centrée sur les technologies, mais surtout sur les transformations que cette technologie produit sur la société. Maintenant, je travaille sur les transformations au domaine de l'éducation, mais avant, j'ai travaillé avec Manuel sur l'impact des technologies dans la société. Alors, cette table ronde, on va parler de ce difficile équilibre entre la sécurité et la liberté. Jean-Daniel, dans sa présentation, a cité cette phrase de Benjamin Franklin, que c'est toujours la même, mais un peu différent. Lui, il dit que c'est l'officiel.
C'est l'officiel, c'est moi qui l'ai dit.
C'est toujours sécurité, liberté, contrôle, chaos, bien et mal, blanc et noir. Trouver cet équilibre, mais au-delà de tout ça, ça a été dit dans la précédente table ronde, peut-être ce qu'il nous faut, c'est des réflexions. On est très accéléré, les changements vont à une vitesse considérable, ce qu'il nous faut, c'est nous arrêter et réfléchir sur les choses qui sont en cours. C'est difficile, hein, parce que le monde avance, les choses avancent, et c'est difficile, mais de toute façon, c'est ça qu'on va essayer de faire. Pour cette réflexion, je vais être, parce que Jean-Daniel a fait une introduction aux séances, cette cinquième séance très complète. Beaucoup de parmi vous avez assisté au séminaire. Alors, je vais peindre des vitesses aussi. Pour cette réflexion sur la sûreté, la liberté, j'avais pensé à Van Self, je vais vous les présenter tout à l'heure, parce que dans les séminaires, Google a été toujours présent. Google a été toujours présent, et lui, en ce moment-là, son titre, après je vous le présente, mais il a été un des pères d'Internet avec Khan, mais maintenant, dans sa carte de visite, il dit Internet Evangelist, non? Internet Evangelist.
Chief
Internet Evangelist. Alors, j'ai pensé que lui, étant donné, c'est comme ça que...
Ça, c'est dans le contexte de Silicon Valley, où il faut... Tout, les titres, on s'en fout des titres. Tu crées le protocole d'Internet, tu t'en fous des titres. Tu fais des choses... d'une certaine manière, c'est ridiculiser les titres académiques. Internet Evangelist.
Oui, mais de toute façon, on a pensé que, étant donné que Google a été toujours présent là-bas, c'était notre Big Brother, ça a été Google, c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'il pensait sur certaines choses. Je pensais qu'il était à Londres, parce qu'il a été basé à Londres ces dernières années. Mais il m'a dit non, je suis déjà aux États-Unis. Il m'a proposé une autre personne, Bertrand de la Chapelle, qui était très intéressé à venir, mais qu'il était en mission aujourd'hui, ces jours-là. Et alors, c'est lui-même qui m'a proposé une vidéo. Vous me posez des questions et je vous envoie une vidéo. Finalement, il a envoyé la réponse à ces questions, mais il n'a pas envoyé la vidéo. Et alors, j'ai pensé à inviter une autre personne très. J'aime beaucoup, c'est mon collègue Manuel Castells, après je vais le présenter aussi, et parce que Vincent c'était le représentant du Big Brother dans notre séminaire, mais Manuel est un théoricien de la société réseau, son livre sur l'ère de l'information a été traduit en 11 langues, ou plus peut-être, 11, ton bouquin sur la...
22,
le double, bon, j'étais un peu... Et il est critique quand il le faut, mais il est aussi optimiste sur les possibilités que nous offre le réseau et j'ai pensé que c'était bien avoir cet équilibre. En plus, je dois le remercier parce qu'il m'a dit que si c'est clair qu'il n'est pas Vincent, il va faire de Vincent un moment, alors il va lire le...
Strictement lire, pas interpréter.
Après, tu peux de toute façon prêter ce que tu veux. Il va lire les réponses de l'INSERV. Nous avons aussi dans cette. Mais de toute façon, il va lire les réponses de l'INSERV, il fera sa propre contribution au séminaire après. Mais après les réponses de l'INSERV, on aura Maxime. Maxime qui vient en représentant Futur Noir. Après, je vais te demander, Maxime, que tu nous dis quelque chose sur. Pas maintenant, après. Oui, quelque chose pour présenter. Qui va un peu réagir aux réponses de notre questionnaire à l'INSERV. Après, je vais donner la parole à Manuel. Et après, ça va être Caroline Thilio, qui a été aussi une participante à notre séminaire, qui va parler de l'activisme au réseau, que je crois que ça va être bien avec ce que va dire Manuel. Elle va réagir aussi sur les choses que Manuel a dit. Je vais donner la parole aussi à Bianca Rutherford, elle a été aussi à notre séminaire. Elle travaille sur l'humanisme numérique. Et il y avait une autre participante que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est là. Marc Lepoivre, il est là? Non. Alors, je vais donner la parole à Bianca et après on va passer au débat. Alors, je présente en 2 minutes à Vin. Hein? Vincerf, il est mathématicien et ingénieur. Enfin, j'ai préparé quelques photos de lui parce que comme ça vous aurez l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là. Il est mathématicien et ingénieur. Il est co-inventeur avec Bob Kahn du protocole TCIP, qui sont c'est le protocole utilisé pour les transferts des données sur Internet. Au début des années 70, ils ont imaginé un moyen de relier différents réseaux. Ils ont baptisé ça Internet Work. C'était très à l'origine d'Internet. Qu'ils ont formalisé en 1974 dans un article qui s'appelait Protocol for Packet Network Intercommunications. En 1976, il a participé au programme de recherche d'ARPA, de recherche de l'armée américaine, et dans ce contexte, il a mis en place la théorie de TCP/IP pour voir si ça marchait et qui a été la base d'Internet. En 82, il a devenu président de la société MCI Digital Information Services. Et dans cette société, il a lancé les premiers services d'email privés. C'était 82, hein, les mails, on pense qu'on a eu toute la vie, mais c'était 82. Et comme hommage, je l'ai trouvé, je vous l'ai mis, les snail mail lui a fait plusieurs timbres. J'ai trouvé celui-là, le plus petit, c'est un timbre nord-américain. L'autre, c'est un timbre que lui a fait la République centra-américaine. Centra-africaine, hein, je vais trop rapide. Hein. Il est aussi un fondateur de l'ISOC, de l'Internet Society, qui a une branche en France, qui a pour mission de faire valoir, et ça c'est important, les points de vue des utilisateurs. Parce que parfois quand on pense à lui, au père d'Internet, on pense seulement à la technologie, mais ils se sont préoccupés depuis le début de faire valoir les points de vue des utilisateurs d'Internet. Et de soutenir les groupes techniques, les groupes d'équipes techniques chargées de développer les réseaux. Il a été le premier président de la ISOC. Il a aussi il a rejoint l'ICANN, qui c'est l'organisme qui donne les noms, les numéros Internet. En 2005, a été engagé par Google, et c'est depuis 2005 qu'il est chef évangéliste. Mais il a travaillé dernièrement avec la NASA pour l'Internet des étoiles qui va relier vaisseaux, satellites et les stations spatiales. Je ne sais pas si à ce moment ils ont fini ces travaux, mais ils sont en cours de faire ça. Je vais dire très rapidement qu'il y a une interview dans la BBC, ça c'est l'adresse où il parle de la digital dark age, et il expose beaucoup de soucis sur la possibilité de que tout disparaisse, que tous nos enregistrements, nos photos, nos mémoires disparaissent. Alors c'est très bien, je n'ai pas le temps de la projeter, mais si vous êtes intéressé, vous faites Vincel VVC Digital Dark Age, et c'est très intéressant de voir quels sont ses soucis sur ça. Quand les journalistes de la BBC, ces journalistes-là, lui demandent si Bob Kahn et lui étaient conscients à l'époque de l'importance de ces travaux, il répond: oui, on savait qu'on lançait un instrument qui pourrait changer le monde, mais on ne savait pas où Internet nous amènerait. Et bon, après, pour centrer les débats, j'ai simplement vous dit que dernièrement, il parle beaucoup de la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, c'est de l'érosion de la vie privée. Et je lance seulement cette phrase qu'il a dit après pour la discussion, qui a été très commentée. Il parle de la vie privée comme une anomalie. Comme vous pourrez vous imaginer, il a eu beaucoup de distinctions comme Manuel. Bon, je crois que je m'arrête ici, c'est tout. Et maintenant, on passe aux questions. Je vais lire les questions, je les ai en français, alors je les lis en français, tu lis les réponses en anglais.
Parce que ça n'a pas été traduit.
Hein?
Je réponds en anglais parce que ça n'a pas été traduit. Non, ouais. En français, je ne vais pas les traduire sur le coup.
Je crois qu'on va
trahir la pensée de Vincent, c'est un problème, c'est un ami.
La première question qu'on lui a posée, c'est: l'histoire nous enseigne qu'Internet a été initialement conçu comme un outil universel pour décentraliser et démocratiser l'information. C'est une sorte d'espoir démocratique. 30 ans plus tard, on observe une concentration de l'information qui bénéficie à quelques sociétés multinationales qui possèdent une quantité croissante de données sur chaque utilisateur. Comment peut-on expliquer une telle évolution que semble donner un pouvoir énorme à ce qui concentre une masse considérable d'informations dans les domaines les plus divers?
So, his answer is, I disagree strongly with the premise that there is a concentration of information that benefits only a few multinational companies. You discount in this assessment the vast quantity of useful information available free of charge to the billions who are online. Also, the users are the ones who have the power to decide if they want to use or not the services and products. On the other hand, it is not a matter of who owns more information, but for what it is used. In our case, we have a very clear idea about what to do with the information which is offered, products and services that can make users' life easier at the same time that we give users the control over the data in our platforms.
Alors, la deuxième question, ça a été clair, je crois. Hein? Alors, la deuxième question qu'on lui a posée, c'est: de nombreux auteurs, compris Manuel Castells, ont écrit dans le passé qu'Internet va favoriser le développement de la liberté individuelle et de la démocratie. Cependant, au-delà du nombre élevé de services qu'Internet peut offrir aux utilisateurs, on observe depuis quelques années qu'il est également utilisé pour surveiller des individus, y compris des personnes démocratiquement élues et des chefs d'État, mais aussi réaliser des espionnages industriels pour le bénéfice des pays comme les États-Unis ou la Chine. Dans quel domaine peut-on dire aujourd'hui qu'Internet renforce la démocratie?
The answer is the following. Access to information is a core part of democracy. Countries that inhibit access to information do damage to the principle that democracy requires informed publics. Regarding surveillance, there is tension among creating a safe society, facilitating anarchy, and imposing totalitarian regimes. In broad terms, the technologies and applications of the Internet promote freedom of expression and access to information. Discovery of people with like interests, a form of assembly. Societies differ in their tolerance of risk, desire for safety, and resistance to invasion of privacy. Every society has to find its comfort zone. I do agree that Internet poses challenges for which we need better technology, improved public awareness of safe networking, and constraints on government to inhibit a slippery slope of surveillance and censorship. Let us not forget the hackers who do untold harms to businesses, governments, and users alike. We must have rules and tools to deal with them in the interest of public safety.
Et la dernière question, plusieurs gouvernements doivent faire face à de fortes tensions avec les sociétés multinationales numériques. Dans certains pays, elles sont accusées de ne pas respecter les lois nationales, de ne pas payer les impôts, de ne pas respecter les règlements anti-monopole qui permettent une concurrence loyale, etc. De plus, plusieurs de ces sociétés semblent réticentes à accepter les droits à l'oubli. Comment peut-on imaginer dans le futur un équilibre entre le respect de la liberté individuelle, celui des lois dans les pays démocratiques et les politiques de développement des firmes numériques?
His answer is, your question implied that the right to be forgotten is absolute, and in this I do not agree. What about the right of the public to know about its officials and their behavior? In the multinational context, taxation is really complex. The complaints come from national perspective, failing to take into account that there are a plethora of national tax regimes and incentives to structure corporate operations to comply with them. Regarding transborder data flow, it is my belief that the risk is not so much from transborder flow, but rather from the risk of attacks coming through the network from virtually anywhere in the form of malware, phishing attacks, password cracking, social engineering, and more. The location of information is far less important than the technology and practices protecting it.
Thank you very much, Mr. Seth. Il est un avatar. Est-ce qu'on a parlé des avatars? Alors, Maxime,
déjà donc pour parler de futur, on aurait vite rapidement, juste pour dire que donc je fais partie d'une revue communautaire qui s'appelle Futur Noir et qui fait intervenir en fait des personnes de tous horizons, donc des spécialistes comme des béotiens qui s'intéressent juste à des questions de société dans divers domaines. Donc, voilà, c'était juste pour mettre le point sur qui j'étais. Vis-à-vis des réponses de l'INSERF, je vais essayer de les traiter dans l'ordre où elles sont apparues. Donc, par exemple, quand il parle tout d'abord de toute la big data qui est réunie autour des utilisateurs et de la liberté de ces utilisateurs de justement gérer ces données, de les restreindre à une certaine quantité selon leur bon vouloir, je trouve qu'il fait l'impasse quand même sur une question qui est importante, c'est-à-dire celle de la confiance qu'il y a entre l'utilisateur et l'entreprise qui produit le service. C'est-à-dire que une société, par exemple, quand vous achetez, ce qui revient le plus souvent, par exemple, quand vous achetez un produit de la marque Apple, c'est que les gens sont sûrs de la qualité du produit, ils sont sûrs de la finition, etc. Ils se posent pas la question réellement de toute la chaîne de production de ce qu'ils achètent, et ils se contentent de faire confiance. Et c'est exactement pareil sur Internet quand Google vous propose de faciliter vos paiements, vous propose de gérer votre boîte mail, etc. Elle vous propose un confort, et de ce confort, en fait, naît une confiance vis-à-vis de la société qui, en quelque sorte, vous contraint inconsciemment à délivrer des informations que normalement vous ne voudriez pas révéler. Donc, pour moi, déjà, il y a ce biais-là du pouvoir qu'a celui qui propose le service par rapport à celui qui le consomme. Je pense que c'est important de mettre ça en avant et de montrer qu'il faut avoir justement cette réflexion-là en amont avant même de parler de liberté réelle de l'utilisateur. Vis-à-vis de cette deuxième réponse par rapport justement à l'information, notamment dans le cadre des élections présidentielles qui sont là pour cette liberté d'information qui est là pour aider à faire le choix dans la démocratie, à aider la démocratie à avancer. Je vais juste rappeler que par exemple, Jim Messina, qui a travaillé avec Obama sur sa deuxième campagne présidentielle pour 2012, a utilisé le big data pour faciliter, si on peut dire, l'accession au pouvoir de Obama pour un deuxième mandat, en optimisant en fait sa campagne via les réseaux sociaux notamment. Et on peut pas parler à ce moment-là. Est-ce qu'on peut parler vraiment à ce moment-là du double tranchant d'avoir cette liberté de discussion sur Internet entre les électeurs entre eux, et aussi justement de ce regard qui est aussi posé par les politiciens qui, eux, ont un objectif et qui, pour ça, sont prêts à récolter un maximum d'informations pour parvenir à ces objectifs, quitte à biaiser leur campagne pour qu'elle soit au plus proche artificiellement de leurs électeurs. Donc je pense que voilà, ça c'est un point que je voulais aborder. À un moment, il parle de hacker. Alors, je voudrais juste faire un petit point étymologique. Les hackers, il faut faire la différence entre le piratage et les hackers. C'est-à-dire qu'un hacker, c'est quelqu'un qui va utiliser, qui va transformer en fait un objet, que ce soit physique ou logiciel, pour en faire un autre usage que son usage premier. Et ça n'a rien à voir avec le piratage qui est là. Par exemple, on parle souvent de communauté des black hats et des white hats, c'est-à-dire les black hats, ce sont des pirates informatiques qui vont être là juste pour le challenge de détruire des protections, contrairement aux white hats qui sont là pour alerter justement les failles de sécurité. Et bon, c'était un petit point étymologique là-dessus, donc il vaut mieux parler ici de piratage dans sa réponse vis-à-vis de la sûreté publique des informations sur Internet. La sûreté, quand on parle de la sûreté des sociétés vis-à-vis de la transmission d'informations en ligne, on en parle beaucoup en ce moment avec les attentats de discuter de est-ce qu'il doit y avoir plus de surveillance en ligne, est-ce que les gens doivent révéler plus d'informations, est-ce qu'on doit forcer les gens à révéler les informations, que ce soit, quand on dit les gens, ce sont notamment les fournisseurs de services, que ce soit Facebook, Google, Twitter, etc. Est-ce qu'on doit le faire ? Le problème ne se situe pas sur l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'on doit surveiller, parce qu'aujourd'hui il se passe des choses terribles, est-ce qu'on doit surveiller au plus proche les gens, est-ce qu'on a vraiment une faille de sécurité de ce côté-là ? Mais c'est de savoir que la légalité, le problème de la légalité, est un problème subjectif et de l'instant dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de l'homosexualité, qui était encore très récemment punie, même en France, si à ce moment-là, un gouvernement avait la possibilité d'accéder à l'information que telle ou telle personne avait des tendances homosexuelles, quel aurait été l'état des choses ? Est-ce qu'on n'aurait pas eu une chasse aux sorcières via Internet, via cet espace de liberté pour débusquer les homosexuels et les punir. Alors, je pense que ça rejoint aussi cette phrase dont il est connu sur l'existence ou pas de l'intimité, de la vie privée. Et je pense que justement, le fait que nous vivons dans des sociétés qui sont subjectives et changeantes trouve qu'il est nécessaire que d'avoir un espace intime, d'avoir un espace privé qui est à l'abri justement de la société qui, elle, ne voit que son fonctionnement global en dépit du fonctionnement, en dépit du bonheur des individus. Pour finir, par rapport justement au droit à l'oubli, donc on a vu Google a eu depuis, il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, qui se sont retrouvés notamment en Espagne, dans des affaires justement de droit à l'oubli. Pour Vinserf, il n'y a pas de question de droit à l'oubli. Pour lui, apparemment, ce n'est pas un droit absolu. La question est de savoir que toute information qu'on a sur nous, à quel point elle est judicieuse par rapport à la question qu'on se pose sur un individu. Est-ce qu'on a besoin réellement de tout savoir sur tout le monde? Est-ce que l'information est toujours égale? On parlait tout à l'heure dans la précédente table ronde de ces informations sur les malades qui sont juste des informations complètement sorties de contexte et qui sont juste une accumulation de données qui n'ont pas de sens sans analyse. Je pense qu'on se retrouve justement avec ce problème-là, c'est-à-dire qu'à donner toutes les informations sans analyse à qui veut bien les consulter, on ouvre la porte justement à des suranalyses. Et quand tout à l'heure je parlais justement de gouvernements qui pourraient avoir trouver leur intérêt à analyser des données pour conformer les gens à leur idée de ce qu'ils doivent être, on observe que ce droit à l'oubli est une nécessité pour assurer justement que les gens soient ce qu'ils sont maintenant et ne soient pas toujours relayé à ce qu'ils étaient et qui forcément n'est pas judicieux par rapport à l'instant présent. C'est un problème pour moi de pouvoir avoir justement de laisser la possibilité aux gens de révéler ce qu'ils ont envie d'être et pas seulement ce qu'on souhaite révéler d'eux en dehors de toute analyse. Sur ces questions, j'ai arrêté. Merci.
Merci, Maxime. Merci pour cette précision que tu as fait sur les hackers. Moi, je voulais la faire aussi, parce que sinon, c'était un peu... Parce qu'en plus, on ne peut pas oublier que les communautés des hackers libertaires ont été les premières qui ont fait résistance aux big data et tout ça. Il fallait faire cette précision. Et on n'aura pas le temps, peut-être maintenant, peut-être aux conclusions, oui, sur les questions de la vie privée. J'ai des données très récentes qui me montrent, après je l'annonce et après peut-être on va pouvoir développer ça, que de la même façon qu'on a commencé à étudier Internet, qui était les premières internautes, et on a commencé à dire, on nous a critiqué au début parce que la mode c'était dire la divisoire digitale, tu t'en souviens? La divisoire digitale, ceux qui peuvent avoir Internet, ceux qui ne peuvent pas. Il y avait une espèce de consensus qui disait que la divisoire digitale était économique. Et nous avons vu dans notre recherche que c'était plutôt générationnel. Moi, dans la question de la vie privée, je vois des arguments générationnels très importants. Après, si on veut... on développe ça. Une des phrases qu'une de mes dernières recherches j'ai trouvé dite par un jeune, c'est si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Alors, parce que dans ces moments, nous avons conscience que tout peut se savoir. Alors, après, peut-être on va en parler. Maintenant, je vais présenter Manuel. Très brièvement, Manuel, je vais dire.
Deux fois, parce que...
Ah, moi, j'ai... Pas trop. Ah, bon, d'accord. Oui, alors, Manuel, la première chose que je veux, c'est te remercier, parce qu'il a une agenda très occupée. Il a trouvé une place pour l'agenda, et en plus, il a eu des problèmes avec les grèves pour arriver. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on pouvait...
Une place ouvrière.
Alors, simplement dire, écoute, je ne vais pas te présenter alors, mais je vais mettre ça. Ça, c'est sa présentation, parce que sinon, je sais qu'il va me dire, il ne faut pas le faire, il a été mon professeur, et parfois, il se permet de me dire, ça, c'est pas bien, hein? Tu peux le faire mieux. Alors, je ne le présente pas, il ne m'a dit pas le présenter, mais je vais... Oui, ça, c'est bien. J'ai trouvé ça.
Elle connaît que c'était Orwell.
C'était quoi?
Orwell.
Orwell, non, non, c'est ça une autre chose, ça, c'est toi. Ça, c'est lui, hein? Bon, alors, Manuel.
Merci.
Un jour, je suis très heureux d'être avec vous ici, cet après-midi, et je remercie vraiment Jean-Daniel et puis mon amie Emma, rectrice émérite de l'Université ouverte de la Catalogne, pour m'avoir invité pour être avec vous pendant quelques minutes, pour parler vraiment d'un sujet que ce séminaire a mis en valeur et a traité, qui me semble très important, qui est un sujet classique dans le français universel, qui est la relation entre culture, technologie, société, valeurs éthiques. Je pense qu'il y a beaucoup trop des discussions sur ce thème qui ne sont pas fondées sur une connaissance réelle des recherches en sciences sociales qui existent un peu partout dans le monde et qui ont essayé non seulement d'évaluer ou de prendre position, mais de comprendre. Et ça, ça a toujours été mon attitude. Comprendre d'abord, pas pour ne pas prendre parti, mais pour prendre parti sur la base d'une connaissance. Alors, pour illustrer ma démarche, je ferai simplement quatre remarques. La première, c'est que quand on dit, quand on attribue à une technologie quelconque des effets sociaux ou humains, des effets sur la vie humaine, sur le comportement humain, il faut faire attention de ne pas l'attribuer à la technologie comme telle. La technologie en elle-même ne produit pas d'effets, ou plutôt produit tellement d'effets qu'ils sont indéterminés. Et ce qu'il faut, c'est spécifier l'effet d'une technologie précise sur des comportements précis. Ce n'est pas la technologie en général, ce sont des technologies sur des comportements dépendant des contextes, des situations. Ça peut être très abstrait, donc je l'illustre avec un exemple de recherche classique sur le rapport entre technologie et effets sociaux, qui est classique dans l'histoire de la recherche sur les dimensions sociales de la technologie. Une discussion qui revient constamment, c'est la destruction des postes de travail par l'automation. Les robots nous déplacent. Bon, tout d'abord, c'est faux, en ce sens que globalement, c'est faux, dans la mesure où les pays qui ont introduit le plus de robots sont les pays qui ont créé le plus d'emplois. Et en Europe, c'est l'Europe du Nord qui a plus de robots et plus d'emplois, l'Europe du Sud qui a moins de robots et moins d'emplois. Mais surtout, je ne voudrais pas rentrer à nouveau dans cette discussion qui est dans la recherche, ça a été relativement réglé. Il y a une destruction massive d'emplois. Mais ça, c'est les politiques d'austérité, c'est les politiques d'entreprise, c'est l'incapacité de recycler les gens. Mais les robots en tant que tels, c'est simplement la conséquence des politiques d'un type plus large. Mais l'exemple de recherche. Dans les années 80, l'Organisation internationale du travail, des Nations Unies a commandé une grande étude, une étude comparée sur les effets de l'introduction de certaines technologies numériques sur le nombre de postes de travail et la qualité. Et ils ont fait une étude expérimentale très intéressante. C'est un économiste japonais, Watanabe, qui l'a dirigé, et ils ont pris des machines de contrôle numérique commandées par ordinateur la même machine, qui est une machine très puissante, des nouvelles souches, et ils ont étudié les effets de l'introduction de ces machines dans la production de l'automobile dans les usines de Ford, pardon, des General Motors à Michigan, à des Toyota au Japon et des Fiat à Turin. Voici les résultats. Ils ont mesuré l'impact précis de ces machines sur le nombre et la qualité des postes de travail. Les résultats sont les suivants. À Detroit, ça, une grande quantité de postes de travail ont été éliminés et les robots ont pris la place des travailleurs. Clair. Au Japon, Toyota, bien sûr, a déplacé des travailleurs des postes d'assemblage et c'est les robots qui ont pris ces postes, mais en même temps, ils ont profité de l'expérience accumulée de ces travailleurs, ils les ont recyclés, ils les ont dépassés, replacés dans d'autres endroits de l'entreprise, où ils ont augmenté leur capacité de travail dans d'autres postes, et en plus, ils ont profité de la productivité accrue qui est dérivée de l'emploi des machines plus avancées, des machines de contrôle numérique, pour augmenter leur compétitivité et finalement augmenter le nombre d'emplois qu'ils ont créés. Qui est l'argument général des économistes, mais qui n'est pas toujours vrai, qui est finalement la technologie permet l'innovation, augmente la productivité, augmente la compétitivité, et sur le long terme, même parfois sur le moyen terme, augmente le poste de travail. Ça c'est vrai dans des cas où on l'utilise pour augmenter la productivité et le poste de travail. Dans les cas des General Motors, ils l'ont fait pour accroître les profits de l'entreprise sans accroître la compétitivité. Donc réduction des postes de travail pour épargner les travail. Troisième cas, Fiat à Turin. Ils se sont posés les mêmes conditions qu'à la fois General Motors et Toyota. Bon, il faut qu'on modernise, il faut qu'on trouve ces machines, augmentation de la productivité, et on n'a pas tellement besoin de toutes ces sortes de travail. Donc ils ont essayé de faire comme General Motors à Detroit. Mais les syndicats italiens de l'automobile sont très forts. Ils sont un peu moins là, mais c'était très fort là. Alors ils ont dit non, pas question. Si on perd le poste de travail, vous n'introduirez pas les machines, les nouvelles machines. Alors, négociation. Résultat de la négociation, ils ont introduit les machines, la productivité et la compétitivité ont augmenté, mais les postes de travail se sont maintenus au même niveau parce que les syndicats ne l'ont pas laissé et ils sont restés sur place, jouant aux cartes. Ils n'ont pas été déplacés. Donc, et la productivité a augmenté tellement qu'ils ont pu payer parce qu'ils n'avaient pas un autre moyen de faire, sinon le syndicat aurait bloqué le progrès technique. Je pense que là, une première remarque, comment les contextes, les politiques, les négociations, les rapports de pouvoir modulent les effets de la technologie sur n'importe quelle activité humaine. Deuxième remarque, rentrant au cœur de la question qui occupe ici sur Internet, les effets sociaux d'Internet. Là, toute forme de transformation technologique dans une société fait éclater des peurs, des cauchemars terrifiants de ce qui va se passer, c'est la peur à l'inconnu. Et en même temps, il y a les prophètes de l'avenir, les prophètes des changements techniques, l'innovation va résoudre tous nos problèmes. Alors, immédiatement, il y a des discours qu'on appelle dystopiques et utopiques, mais enfin que j'appelle dans les deux cas l'idéologie personnelle transformée en discours. Parce que ça, c'est pas. En fait, c'est la psychologie. Quand on a peur de la vie, on voit des catastrophes partout. Quand on a un sens que la vie est merveilleuse, et de toute façon, on va tout faire, mais la technologie va être encore plus. Va faire la vie encore plus belle, encore plus poétique. Les ordinateurs nous aideront à créer des formes d'art, etc. Tout ça, ça relève du domaine du subjectif et c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec la connaissance de ce qui vraiment se passe quand Internet se trouve dans nos vies. Moi, je suis frappé qu'on continue encore à discuter si Internet est bon ou mauvais. Comme si on pouvait vraiment faire autre chose que vivre avec Internet. On peut, mais il faut Et ça, alors là, c'est la chose qu'il faut se retirer complètement des sociétés et recommencer dans une commune, dans les montagnes, dans une île du Pacifique, et encore. Et c'est très bien comme option personnelle. Mais les sociétés, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est déjà trop tard. Parce que, d'abord, Internet, ce n'est pas une nouvelle technologie. Je déteste le nom de la technologie. Ça a été déployé pour la première fois en 1969. Donc, ça fait belle lurette que Internet est complètement dans nos vies. Je vous rappelle qu'il y a actuellement y a, près de 4 milliards d'usagers d'Internet dans une planète de 7 millions et demi, et qu'il y en a actuellement plus de 7 milliards de numéros des portables. Et la moitié de ces portables, c'est-à-dire donc, la moitié des gens de la planète, ce sont des smartphones. Ce ne sont pas simplement des portables. Donc on est largement, si on ajoute, on corrige par... pas tous les enfants de moins de 5 ans ont un portable, la plupart, oui. Enfin, si on corrige par le nombre d'enfants, les bébés n'ont pas encore de portable personnel, ça veut dire que l'ensemble de la planète est connecté aujourd'hui. Que, comme disait Yves avant, la divisoire numérique n'existe pas au niveau de l'accès. Et ce qui existe, existe normalement, c'est la qualité de la communication, la qualité non seulement des machines, mais des réseaux, et surtout la capacité culturelle et des connaissances, d'éducation, pour savoir ce qu'on fait avec cet énorme potentiel. Ça, absolument. Et à nouveau, ce qui a été toujours la divisoire fondamentale de l'humanité, qui est l'éducation, là, elle se trouve renforcée, parce que l'éducation, le niveau d'éducation corrèle avec les capacités qu'ont les gens d'utiliser à leur service et dans leurs valeurs, dans leurs projets, la force d'Internet. Mais concrètement, la plupart des choses qu'on lit dans les médias ou que des intellectuels répètent sur Internet, simplement sont sans aucun fondement de recherche. Et aujourd'hui, il y a 20 ans, on pourrait plus ou moins avoir une discussion philosophique comme ça sur Internet. Aujourd'hui, on sait. Vraiment, on a des connaissances fortes sur ce qu'Internet fait et ne fait pas. Il y a des milliers de chercheurs travaillant sérieusement sur Internet. Il y a près d'une centaine d'instituts de haute qualité au monde dédiés à l'étude des aspects socio-économiques, philosophiques, etc. d'Internet. Et Matouéa a fondé un de ces instituts. Je peux immédiatement vous donner des tas de références, etc. Mais j'insisterai sur un aspect. Ce qu'on dit souvent, c'est l'impact d'Internet sur la sociabilité. L'idée qu'Internet aliène, isole, rend les gens fous, ils restent toute la journée collés à l'écran sans rien faire et sans interagir avec les autres. Bon. D'abord, oui, on est toute la journée, presque tous, collés à l'écran. À des écrans multiples. Parce qu'on fait des tas de choses qui passent par une communication électronique. Mais ça, ce n'est pas une maladie. Parce que ça, c'est une maladie si on ne faisait que cela. Ça, c'est une maladie si on ne faisait que s'articuler au monde dit virtuel sans rien faire d'autre et s'échappant de l'interaction personnelle. Bon, qu'est-ce que les données montrent? D'abord, les données en général, parce que ça, elles coïncident tous. Et puis, l'étude qu'on a fait, Matouéa et moi-même, sur un échantillon représentatif de la population de Catalogne, 3000 personnes, qu'on a analysé pendant un an et demi, etc., etc. Avec des interviews approfondies, personne à personne. 2 heures d'interview par personne. Et pas par interview, des interviews personnelles. Bon. On a trouvé la même chose qu'on trouve partout. La sociabilité par Internet, la sociabilité interpersonnelle physique, sont cumulatifs, pas contradictoires. Plus on utilise Internet, plus on est sociable en dehors d'Internet. Et vice-versa. Plus on est sociable, plus on utilise Internet. Pourquoi? Simplement parce que les gens utilisent Internet pour des choses qui sont dans leur vie. Donc, il n'échappe pas dans ce monde virtuel. Il y a aussi, bien sûr, des gens qui, fondamentalement, qui ont beaucoup plus de sociabilité à l'Internet que d'autres. Mais ce n'est pas en excluant la sociabilité personnelle. Ça, c'est des données, ça, c'est pas des opinions. Ça, c'est ce qui se passe pour moi. C'est une sociabilité cumulative, pas contre l'idée que les gens sont perdus d'Internet, ne s'occupent pas de sorte qu'ils perdent la famille, qu'ils perdent la famille. C'est le contraire. Plus on utilise Internet, plus on a des relations sociales, plus on a des relations sociales, plus on utilise Internet. Deuxième élément qui a été aussi trouvé, l'idée que les gens sont très malheureux après avoir utilisé Internet pendant longtemps. Là, il y a beaucoup d'études, mais je ne cite qu'un, parce qu'ils sont tous dans la même direction. L'étude qu'a fait le British Computer Institute en 2010 sur un échantillon représentatif de la population de la planète, 35 000 interviews, pour analyser les effets sur... Ils sont exagérés, ils sont appelés sur l'indice de bonheur. J'ai dit satisfaction personnelle. Le bonheur, c'est une question beaucoup trop importante pour être mesurée simplement par une série d'indicateurs que le psychologue a toujours appelé satisfaction. Bon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y a une corrélation entre l'intensité et la fréquence du site d'Internet et le niveau de satisfaction personnelle. Et que cela, c'est plus marqué pour les femmes, plus marqué pour c'est plus marqué pour les gens des pays pauvres. C'est général, mais ensuite c'est accentué. Bon, mais corrélation n'est pas causalité. Ils ont essayé de décortiquer quelles étaient les variables intermédiaires qui permettaient cette relation. Ils ont trouvé deux variables qui coïncident avec beaucoup de théories psychologiques. Il semblerait que ce qu'il y a de plus important au niveau de la satisfaction personnelle de chacun sur notre vie, ce sont deux choses. Il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui sont fondamentales. En tout cas pour nos sociétés à l'heure actuelle. L'une, la densité et la solidité de nos réseaux de relations personnelles. Être avec d'autres. On est des êtres sociaux. C'est-à-dire, lutter contre la solitude, se trouver dans un réseau de soutien personnel. Ça, c'est fondamental. Ce qu'on appelle sociabilité. Et d'autre part, différent, mais pourtant, les sentiments d'autonomie, de contrôle sur notre vie, de notre capacité à contrôler ce qu'on veut, ce qu'on fait. Pas être à la merci du hasard, de pouvoir établir, de patron, de savoir que, est-ce que nous, c'est nous qui pouvons décider. Le sentiment d'autonomie. Les Anglais appellent empowerment. Alors, c'est deux choses. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait, plus on utilise Internet, plus on renforce la sociabilité. Et qu'est-ce qu'on sait? Plus on utilise Internet, plus il y a un sentiment de contrôle sur le processus d'information qui détermine notre vie. C'est simple. Internet ne détermine rien, mais renforce la construction d'une sociabilité plus dense et renforce la construction d'un sentiment d'autonomie et d'avoir du pouvoir sur nos vies plutôt que c'est le pouvoir établi comme le pouvoir sur nous, qui ensemble permettent d'une certaine manière une vie plus riche et plus satisfaisante. C'est ce qui dit. Alors moi, je suis plus compliqué dans cela. Je ne pense pas que la vie est plus satisfaisante simplement dans ces modèles très simples, mais ce qui est certainement vrai, c'est qu'il n'est pas... Ça, c'est le contraire de ce qu'on dit souvent, qu'Internet, au contraire, rend nos vies beaucoup plus malheureuses, beaucoup plus isolées. Donc, la recherche soigneusement établie sur des échantillons de populations à beaucoup d'endroits au monde montre que c'est... Ah, c'est ma deuxième remarque. Troisième remarque. toute technologie, en fait, c'est la matérialisation d'une certaine culture. Les cultures existent matériellement à travers des formes technologiques à partir desquelles les humains, on s'organise, on travaille, on communique, on produit, etc. Alors, Internet a été le résultat d'une certaine culture, d'une culture qui est née, qui était la culture d'une certaine manière libertaire, qui est née dans les campus des universités européennes et américaines dans les années 60. C'était notre mai 68, dans lequel j'ai participé très activement. C'était le Berkeley des années 60. C'était l'idée. C'était pas du tout des révolutions socialistes de nouveau type, non. C'était des révolutions libertaires, pas au sens actuel américain de l'individualisme radical. Libertaire au sens que ce qui était important, c'était la liberté. La liberté individuelle et en même temps la liberté de s'organiser collectivement pour assurer la liberté de chacun. Il y a des études historiques et anthropologiques intéressantes aux États-Unis qui montrent la relation directe entre la culture des campus américains dans les années 60 et 70 et le type de technologies de communication qui se sont développées exactement dans la même époque, à partir de la fin des années 60 et dans les années 70, qui était le moment de construction de toutes ces technologies. Toutes sont sorties de là. Alors, ça veut dire quoi? Que d'une certaine manière, ce sont des technologies de liberté et de communication libre vis-à-vis les grandes corporations et vis-à-vis l'État. Bien sûr, on sait qu'ensuite, de tout ça, c'est sorti les Google, Microsoft, d'accord? Mais c'est ça la contradiction, précisément. C'est ça la contradiction intéressante. Donc, à l'origine, c'est une culture d'autonomie, une culture de liberté qui crée ce que Étienne de Salapoule avait appelé des technologies de liberté, qui ont tourné la révolution informatique dans des voies extrêmement différentes de ce qu'on prévoyait. IBM prévoyait un monde contrôlé par des ordinateurs d'IBM. Le gouvernement français, avec un pays très développé technologiquement du point de vue informatique et mathématique, prévoyait un monde contrôlé par l'État à travers Minitel et les terminaux de Minitel centralisés dans l'office de poste et à partir de là, organiser l'ensemble de l'information verticalement. Internet a liquidé tout ça, aussi bien les IBM de l'époque que les Minitel qui ont détenté en France, l'Union soviétique, etc. Et ça a été, d'une certaine manière, cette culture libertaire des réseaux sans contrôle qui s'est développée. C'était le moment encore où le gouvernement avait leur ministère des postes et des télécommunications qui faisait des traités pour transmettre le signal d'une frontière à l'autre. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'Union des télécommunications des Nations Unies, c'était pour organiser l'échange des signaux entre les États. Internet a liquidé tout ça simplement par la dynamique propre de la technologie et la décentralisation de cet échange. Alors, c'est là où, à nouveau, j'introduis l'histoire, que ce n'est pas nécessairement une marche vers la liberté liée au développement technologique. C'est aussi toujours les forces de contrôle, de pouvoir et de communication du capital et de l'État, de toute société, à travers toute l'histoire, qui se recyclent dans une nouvelle situation et organisent de nouvelles formes d'appropriation, domination, exploitation à partir des nouvelles capacités humaines de s'approprier la nature à travers de nouvelles technologies. Exemple. Pour construire ce monde de liberté, de communication, de transmission, de signaux, de contenu de tous vers tous, de toutes vers toutes, dans l'ensemble de la planète, on l'a fait. Et on l'a fait tout seul, d'une certaine manière. Internet n'a pas eu besoin des grandes entreprises de l'époque. Au contraire, tous les grandes entreprises de l'époque sont disparues. Et c'est des petites boîtes, Apple, etc., petites,
Et ensuite, elles sont devenues énormes parce qu'elles sont tapées sur le potentiel humain de développer tout ça. Rappelez-vous la règle d'or dans le développement d'Internet. Les usagers sont les producteurs de la technologie. C'est les usagers, pas les ingénieurs, qui ont produit la technologie. Les usagers qui ont appris de même et en rapport avec les ingénieurs, etc. Mais alors, les résultats de tout cela, ça a été de construire un énorme univers de contenus informatisés, de contenus numériques, dans lesquels il y a tout. Il y a nos vies, il y a notre travail, il y a les capitaux, il y a l'information, il y a tout. Un de mes étudiants en Californie a fait sa thèse, qu'il m'a très connue depuis il y a 5 ans. Il a quantifié pour la première fois toute l'information qui existe sur la planète, sur quelle plateforme, de quelle manière est codifiée. 97% de l'information qui existe sur la planète est actuellement numérique. Bien sûr, ça inclut le film, ça inclut la musique, ça inclut tout. Donc, on est déjà dans une planète numérique. Et en même temps, tout ça, c'est d'une certaine manière libre, au sens que ça circule partout, précisément parce qu'il y a une autonomie de transmission. Mais quel est le résultat? Et c'est ça le paradoxe. Que du coup, l'ensemble de l'information est à disposition de tout le monde. Et en ce sens, Bill a raison de dire qu'il n'y a plus de privacité dans ce monde numérique. Parce que tout ce qu'on fait a une trace numérique. Dans les cartes de crédit, dans les messages qu'on envoie, tout, les films qu'on voit, la politique qu'on fait, l'ensemble de tout ça est enregistré actuellement dans cet ensemble numérique. Alors, cet ensemble numérique est utilisé par tout le monde, mais bien sûr, ceux qui ont le plus de moyens, c'est-à-dire les grandes entreprises de l'univers digital, sont celles qui contrôlent le plus d'accumulation de ces données. Mais ce n'est pas quelles sont les données et nous, on ne les a pas. Au contraire, on a accès à tout et comme on a accès à tout, on produit de plus en plus d'informations pour ceux qui peuvent l'accumuler. Et d'une certaine manière, le capitalisme des informatiques a changé de base. En accumulant des données et en vendant les données, le maxime au Silicon Valley est clair, si tu ne payes pas, c'est que tu es en train de payer avec tes données. C'est ça l'histoire. Parce que c'est ça le modèle de négoce. 91% des revenus de Google viennent de la publicité. Mais quelle publicité? Ce n'est pas les banners, etc. Non, c'est l'appropriation, la collection des données et l'organisation de la recherche par la machine Google de manière que ça favorise les gens qui payent certaines choses plutôt que d'autres. Ça, c'est très, très puissant parce qu'on a tous besoin de chercher un restaurant ou un livre ou un projet de recherche, un projet de vacances, et on est immédiatement sollicité de manière indirecte. Et ça, c'est possible quand on a absolument toutes les informations. Donc on est passé à ce que certains chercheurs appellent actuellement les capitalismes des données, data capitalisme. Donc le big data, c'est ça. Le big data, c'est l'accumulation d'informations que nous, on produit, tous les jours, dans un univers qui est complètement interactif. À commencer, le plus clair, c'est sur les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est un enregistrement de tout ce qu'on fait dans la vie. Les jours où vraiment on peut commencer à se libérer au niveau individuel de tout ça et on crée un mouvement pour l'adresser, la première chose à faire, c'est détruire les cartes de crédit. Et faire confondre les trafiquants de drogue, les tueurs professionnels, etc. Cash. Moi, j'essaie de travailler toujours avec cash. C'est pas que je suis un tueur, mais enfin, si on veut s'échapper, cash, c'est la formule. Ou alors,
la nouvelle révolte libertaire, Big Boy, qui est une sorte de la culture extrême de l'individualité libertaire. En même temps, et dans ce mouvement qui n'est pas le même, les États, dans l'ensemble du monde, certainement l'État américain le premier, mais pas seulement, ont créé ce que j'appelle des bureaucraties de vigilance, des bureaucraties de surveillance, qui utilisent ces mêmes supertextes, hypertextes digitales, où tout y est, pour pêcher là, d'avoir une capacité que personne n'a de pénétrer la vie de quiconque et trouver le rapport entre différentes dimensions. Toujours, le truc c'est le terrorisme, avant c'était la pornographie infantile, maintenant c'est le terrorisme, et la NSA, la National Security Agency, a commencé à être fondamentale après, les attentats de 2001, et le dirigeant qui a été nommé à ce moment-là a dit, bon, il faut que je trouve, parfois on doit trouver une aiguille dans un grenier. Moi, la seule manière que je vois de le faire, c'est d'avoir tout le grenier. Alors, tout le grenier, c'est l'ensemble de l'information de la planète. Et l'ensemble de l'information de la planète est actuellement dans les machines informatiques, non pas de la NSA seulement, mais de la NSA, du système anglais qui est le plus sophistiqué, système français, système allemand, et puis différents Russie et Chine, mais ils s'échangent des informations. Et on connaît, on sait exactement. La grande chose qu'a fait Snowden, c'est que tout ça on l'a soupçonné, la collaboration, les rapports, là on le sait, parce qu'il a donné des données précises qui montrent l'interaction de ce que j'appelle la bureaucratie de surveillance globale en réseau. Précisément à cause de la liberté qu'on a à produire et échanger des contenus. C'est ça le paradoxe. Si on n'avait pas cette liberté, on ne le ferait pas. On resterait dans nos coins. Mais comme on peut communiquer avec tout le monde et traiter tout et envoyer toute l'information, précisément à cause de ça, on a construit un univers où il y a accès des grandes machines, des grands appareils d'État ou des grandes entreprises à cet univers digitalisé. Mais là, c'est toujours le rapport dialectique. En même temps, ces technologies sont les technologies qui ont permis de développer de nouveaux mouvements sociaux en dehors des grands partis traditionnels, des grands États, des grandes corporations qui... Tout le monde disait oui, excepté en France, parce que la France, c'est pas ça, etc. C'est pas ça. Debout la nuit, hein, là, ça marche. Et je sais ça très bien parce que il y a un nouveau transfert de technologies. Notre équipe de chercheurs sur ces questions à Barcelone, qui était à la pointe du mouvement espagnol, c'était à la fois activiste, etc., ont été demandés en conseiller technique par les gens de Debout la nuit. Ils ont passé un mois à Paris. Parce que, bien sûr, les copains français n'avaient pas l'expérience de comment on organisait tout ça. Et c'est une partie informatique dans cet aspect qui est extrêmement importante. Donc, c'est d'où le caractère contradictoire entre surveillance, appropriation capitaliste de la vie privée et révolte utilisant ces mêmes technologies. Ça, c'est la chose qui est intéressante, plutôt qu'opposer le vieil univers. Où on lisait des livres dans notre solitude vis-à-vis les moments de l'orwell informatique. Et ma dernière remarque, tout à fait rapide, je pense que, même si j'ai dit qu'il faut toujours se baser sur la connaissance concrète de ce qui se passe, et toujours garder cette double tendance de liberté, appropriation des résultats de la liberté, qui est quand même plus intéressante que simplement opposer l'inévitabilité de la domination à une liberté retranchée. Je pense que le débat proprement éthique, est fondamental. Et le fondamental, par rapport non seulement à ces technologies informatiques, mais par rapport aux technologies médicales que vous avez discuté avant, parce que la grande révolution technologique et qui pose plus de contradictions entre la capacité technologique et la capacité de créer une existence humaine sont précisément dans l'aspect de la révolution biologique actuelle, la transformation totale de la recherche médicale. Et alors là, il faut se rappeler d'une grande leçon de l'histoire de la technologie qui est une leçon d'une certaine manière terrifiante. Il n'y a pas une seule grande nouvelle technologie qui a été inventée dans l'humanité qui n'ait pas été utilisée. Tout ce qu'on invente, on l'utilise. Bien ou mal. On invente le nucléaire, on fout l'air de ville pour commencer et ensuite on commence à avoir la possibilité de faire d'autres choses. C'est-à-dire, ces caractères fondamental des humains, des instruments qu'on a, des instruments qui viennent de notre extraordinaire capacité pour créer, inventer, développer, explorer. Ça, une fois qu'on a quelques instruments pour les asseoir comme pouvoir, comme domination, comme capacité de moi je fais, toi tu fais pas, tu vas voir cette technologie, je l'utilise pour ce que je veux. Et ensuite, il y a toutes les... Oui, mais on le fera avec attention. Mais toutes les technologies, toutes, ont toujours été utilisées. Et là, il n'y a que des ressources, d'une part institutionnelles, d'autre part de la société civile, sur la base d'un débat éthique fondamental et continu, qui peut arrêter des désastres absolus. Et sinon, le sens commun, c'est le moins commun de tous les sens. Rappelez-vous. Chaque fois qu'on dit non, mais il faut pas avoir un marché illégal d'organes humains, et non, il faut pas faire la culture d'organes humains dans des cochons, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, on le fait déjà, vous le savez, vous l'avez discuté avant, etc. Y a toujours la même question qui se pose. Mais si ta fille, c'était la seule manière de sauver ta fille, tu le ferais? Toutes les enquêtes. Et il y a 90% des questions, oui, je le ferai. Je paierai ma fortune pour trouver un petit enfant malade, un petit enfant sain et le rendre malade en Inde pour prendre son petit foie et le mettre dans ma vie. C'est systématique. Alors, cet énorme mouvement d'une certaine manière, apprendre à vivre ensemble avec cet extraordinaire potentiel qu'on a créé et qu'on va continuer à créer chaque fois de plus en plus, demande un débat éthique de fond, mais pas entre philosophes, dans l'ensemble de la société, dans les écoles, partout. C'est pas facile, mais si on ne le fait pas, les hôpitaux commenceront à faire des choses affreuses. Il faut déjà pas mal. Et les Google du monde continueront à rendre notre société transparente, mais avec une capacité asymétrique de demander, de regarder à travers cette transparence. Voilà, merci.
Alors, avant ma présentation, j'aurais une remarque par rapport à la nécessité d'un débat éthique, parce qu'à mon sens, il faut distinguer le débat éthique qui doit porter sur la médecine et les découvertes médicales du débat éthique à propos des NTIC. Parce que en ce qui concerne l'éthique médicale, c'est plus propre à une action, alors que dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce serait plus une question de justice et d'équilibre entre les grands groupes puissants qui ont toutes les données et les utilisateurs dont on prend les données et donc qui sont exposés à un danger. Donc ça, ce serait une première remarque. Ensuite, ma présentation s'inscrit dans la lancée optimiste que vous avez présentée. Donc j'aimerais m'appuyer sur principalement un point que vous avez soulevé, le fait que les nouvelles technologies sont toujours indéterminées et donc on va les utiliser selon un usage qui correspondrait plus à des tendances humaines, presque propres à la nature humaine. Donc j'aimerais m'appuyer sur le désir d'optimisation qu'on a et le désir de sociabilité. Dans un premier temps, j'aimerais traiter de l'utilisateur comme récepteur des nouvelles technologies et dans un second temps, de l'utilisateur comme acteur, donc l'action permise par les nouvelles technologies. Donc tout d'abord, comme récepteur, à mon sens, grâce à tout ce qui est big data et données, on a vu l'émergence d'une nouvelle tendance, c'est l'effective altruism. Donc le fait que maintenant, quelqu'un qui par exemple veut donner à des œuvres caritatives va non pas baser sa décision de don sur ses sentiments et ses émotions. Par exemple, si quelqu'un de sa famille a été atteint du cancer, la personne va donner pour la recherche, pour lutter contre le cancer, mais plutôt va déterminer sa décision de manière rationnelle en s'appuyant sur des données. Le fait que donner de l'argent à telle cause aura plus d'impact. Donc ce sera un processus rationnel. Dans un second temps, les nouvelles technologies de l'information et de la communication augmentent aussi ce qu'on appelle l'empathie chaude, donc l'empathie ressentie, à la manière de la littérature. Donc comme les personnes qui, dans le passé, ont eu entre les mains des livres qui racontaient les récits d'esclaves ou de personnes noires ou de femmes, ou tout autre groupe oppressé, on va dire. Grâce à la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, on a accès à ces témoignages en direct, et donc ils nous touchent de manière plus directe. Et aussi une autre tendance par rapport à la diffusion de ces informations, c'est ce que Sartre appelait les groupes en fusion. Avant, par rapport à l'information, on était tous passifs, par exemple, on écoutait la radio, on avait des informations, on ne savait pas ce que les autres personnes pensaient, ce que les autres auditeurs pensaient. On pensait que l'information qu'on recevait, tout le monde était d'accord avec cette information. Maintenant, sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook, des pages de journaux d'actualité publient des informations et on peut voir les commentaires des gens. On sait si les gens sont d'accord ou non. Donc on sait qu'on n'est pas seul. Ensuite, on pourra passer à la seconde étape, donc encore sur Facebook, vu que c'est le réseau social le plus utilisé. En France, en tout cas. On peut créer des groupes et coordonner l'action. Et ça, c'est pas qu'en France. La preuve, avec tout ce qui est printemps arabe et toutes les révolutions et les mouvements sociaux, comme Occupy Wall Street ou maintenant Nuit Debout, fonctionnent par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà. J'aimerais faire la transition donc de cette approche qui insiste sur la réception d'informations à la transformation en action. Donc les groupes permettent l'action. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le fait d'intégrer un groupe Facebook, d'échanger avec autrui, favorise aussi l'engagement, non pas seulement virtuel, mais réel. Donc on assiste à la disparition du cloisonnement. Et ça, on peut l'observer avec d'autres modes d'action qui sont peut-être moins sociales et plus personnelles, vu que l'initiative est personnelle. C'est tout ce qui est pétition en ligne, donc par exemple change.org ou Avaaz. On peut signer en ligne une pétition et on peut voir que ces nouveaux procédés ont des répercussions dans le monde réel et non pas seulement virtuel. Le coût est très minime, sachant qu'on peut dire seulement je signe et après partager avec les réseaux sociaux. Donc là, on pourrait effectuer une certaine critique par rapport au narcissisme des personnes qui le font, vu qu'ils exposent leur action à autrui et montrent qu'ils sont de bonnes personnes. Donc il y a peut-être aussi un effet pervers, mais en même temps, ils diffusent l'information, donc c'est positif. Donc ça, c'est une forme de participation à moindre coût. Et en fait, à partir de là, on peut constater que l'individu pourra se dire « Ah, mais en fait, ça me fait du bien de participer de cette façon. Peut-être que je devrais essayer de m'engager aussi dans la réalité. » Donc en plus de ce phénomène des groupes Facebook qui créent des événements et des rassemblements où les gens se rencontrent, par exemple Nuit Debout, il y a aussi le fait que les personnes peuvent intégrer des associations à titre bénévole. Et ça, ça va totalement dans le sens d'une sociabilité augmentée grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, un autre point, ça ce sera plus par rapport à l'optimisation qu'au désir de sociabilité, c'est le fait que tout ce qui est NTIC profite au développement. C'est tout un champ qui a été créé assez récemment grâce à l'émergence des nouvelles technologies, qui s'appelle ICT4D, donc les technologies de l'information et de la communication pour le développement. Et en fait, ça a été initié par les ONG. Donc, il y a plusieurs exemples tout ce qui est organisation lors des crises humanitaires afin de coordonner les efforts. Il y a aussi la diffusion de l'information, donc par exemple créer des applications mobiles, que ça fonctionne beaucoup grâce aux applications mobiles, puisqu'à présent pratiquement tout le monde a un téléphone, un smartphone. Par exemple, récemment, ce qu'on appelle la crise des réfugiés, qui a toujours existé, mais dont on parle un peu plus en ce moment, il y a beaucoup d'applications qui existent et qui sont créées dans ce domaine afin que les réfugiés aient accès aux informations juridiques par rapport aux demandes d'asile, et qu'ils aient accès à des informations dans leur langue, ce qui est très important, et qu'ils puissent par exemple être mis en contact soit avec des citoyens qui pourraient les aider, soit avec des avocats pour leur démarche, ou bien des services beaucoup plus basiques ou seulement de la traduction. Donc ça, c'est dans le domaine des crises humanitaire, quand il y a des catastrophes naturelles, coordonner les efforts pour les réfugiés qu'ils aient accès aux informations. Ou sinon, dans le domaine des libertés civiles, il y a un type d'application spécifique qui est en train de un peu d'exploser en quelque sorte. C'est une application de type Stop and Search. Donc ça a été créé aux États-Unis, je crois que c'était à New York. Ça a été transposé à Londres, donc c'était par des entrepreneurs, des startups. Et là, c'était en mai, donc très récemment, ça a été créé pour le Cambodge. Et ce qui est assez intéressant à relever, c'est que ça n'a pas été créé par une ONG ou par un acteur privé, mais que c'est le Bureau régional des Nations Unies qui a initié cette démarche. Donc le fait que les institutions s'emparent d'outils, c'est intéressant. Donc les gens, les personnes qui sont arrêtées connaissent leurs droits, ils y ont accès, ils savent ce qu'il faut faire. Et en même temps, comme ça, c'est ce qui démarque justement ces nouvelles technologies, il peut y avoir un feedback. Donc ils peuvent dire, j'ai été arrêté là, ça c'est pour l'application anglaise, j'ai été arrêté là, j'ai eu l'impression qu'on m'a manqué de respect ou bien qu'on n'a pas respecté mes droits. Et donc ça peut justement, en plus d'apporter des données à des grands acteurs qui nous font peur, tels que Google et Facebook, apporter des données justement pour critiquer des abus dont on est victime. Et je pense que j'étais assez rapide en fait, mais voilà, pour moi en fait, tout ce qui est NTIC, ça augmente des tendances plutôt positives, même si on pourrait critiquer le désir d'optimisation, mais le fait que les procédés, les outils qu'on a déjà fonctionnent beaucoup mieux. C'est un espoir démocratique finalement.
Donc le projet Glass Fortress, donc c'est un film qui est une adaptation du roman de Nous Autres présenté tout à l'heure par Jean Daniel, à savoir un roman de 1921 écrit sous l'ère stalinienne par un ingénieur. Voilà ce qui est intéressant, Zamiatine est un écrivain, mais c'était un ingénieur naval. Dans Nous Autres, il décrit l'histoire d'un ingénieur aéronautique. Il y a un joli parallèle et surtout, ce qui est très beau, et ce que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches préliminaires, à savoir que Zamiatine, qui décrit une cité de verre qui sera transgressée par le protagoniste des 503, eh bien, Zamiatine était un ingénieur naval et il créait des brise-glaces. Donc il y a eu vraiment une symbolique qui est absolument magnifique. L'ouvrage de Zamiatine est plein d'aphorismes. Il y en a un qui est absolument superbe. Il dit qu'un jour viendra où ni les hommes, ni les choses ne projetteront une ombre. Je crois que c'est un aphorisme qui est plein de sagesse et qui offre aussi de multiples interprétations. Pourquoi l'idée de The Glass Fortress ? Eh bien, elle est née tout simplement en septembre 2013. J'étais dans le RER, près de la station Saint-Denis, donc quelque chose d'assez lugubre, un lundi matin. Je me rendais à mon travail, une autre forteresse, celle de Bercy, le ministère des Finances. Et donc, je lisais Nous Autres, c'était une recommandation de lecture de mon fils qui passait le bac de français. Et donc là, j'ai été sujet ou victime d'une sorte de synesthésie. Vous savez, ce désordre, je ne suis pas un spécialiste neuropsychologique, à savoir une confusion, un mélange de plusieurs sens, un artiste dirait plutôt une conjonction heureuse, à savoir que par la fenêtre, je voyais la station Saint-Denis avec un univers, la métropolis de Fritz Lang, des gens qui marchaient, qui se rendaient à leur travail, et dont je faisais partie aussi. Je lisais Nous autres et j'écoutais Vers la flamme de Scriabine, compositeur russe contemporain de Zamiatine. Et par ailleurs, après, suivez le morceau de Daft Punk, Within, qui, l'album de Daft Punk, aurait pu également éclairer la réflexion de ce groupe, puisqu'il porte sur la place de l'individu, et notamment de l'intelligence artificielle et de la conscience que l'on a de son existence et de cet éveil. Voilà, donc, de cette synesthésie, alors bon, Rimbaud, lui, voyait des couleurs dans les voyelles. Moi, j'ai eu une révélation, celle de faire, avec un ami compositeur, dans un premier temps, un concept album. C'est-à-dire que ce projet Glass Fortress est multimédia, c'est-à-dire en janvier 2015 est sorti un concept album, fort de 14 titres. Puis après, une autre déclinaison du même projet a été le court-métrage. Et donc à l'équipe formée par Rémi et moi-même, s'est joint Fanny, que j'avais repérée car elle est une brillante photographe de la scène métal. Et donc célèbre pour sa maîtrise des noirs et blancs. Et donc à trois, nous avons fait ce court-métrage. Alors il y a eu un gros travail préliminaire d'adaptation littéraire, de réflexion, à laquelle j'ai associé certains universitaires. J'ai également mené des travaux en candide sur ce sujet-là. Par exemple, au hasard d'une lecture, un ouvrage intéressant sur la télé-réalité. Télé-réalité, c'est la transparence, un peu on pourrait dire la pornographie de la transparence. En ce sens qu'elle montre tout, elle montre tout de façon tronquée. Et bien, c'est un ouvrage qui s'appelle 12 ans de télé-réalité en France, au-delà de la critique morale. C'est un ouvrage, je crois, de 2013, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que, eh bien, là où Zamiatine décrit un univers totalitaire, où il y a une sorte de bonheur, mais privé de la passion, de l'imagination, et dans lequel, toutefois, sont réservées deux petites fenêtres de liberté très encadrées que sont les heures personnelles, donc le matin et l'après-midi. Et bien, quelle ne fut pas ma surprise de voir que dans le contrat d'engagement des acteurs, je crois que c'est le bon terme, de télé-réalité, existaient également des heures personnelles. Donc c'est dans ces travaux que j'ai pu voir également que, dans la télé-réalité, où on montre tout, néanmoins, on réserve aux acteurs 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, loin des caméras, où ils peuvent se retrouver. Voilà en ce qui concerne la naissance du projet, sa conduite, et donc ce projet multimédia qui comprend un album, un court-métrage sorti il y a 2 mois. Il y a également tout un cycle de mini-conférences qui se déclinent soit donc le travail vraiment purement littéraire d'adaptation, soit après sa dimension un peu plus philosophique, car on a travaillé pendant 2 ans avec Fanny sur le projet. Il y a toute une métrique, il y a énormément de symbolique, énormément de références qui proposent 4 formes de voyage. Un voyage, on pourrait dire, transgressif, c'est Nous autres. Un voyage introspectif, nous nous sommes inspirés des règles posées par Chris Marker dans un grand film d'anticipation français, La Jetée, de 1962. Le voyage métamorphique, vous verrez qu'il y a des allusions à Lewis Carroll. Et puis après, on pourrait dire le voyage, un peu le mythe du phénix avec Scriabine. Et Scriabine lui-même était très inspiré de l'œuvre de Nietzsche, donc avec un peu Surhomme et l'éternel retour. Voilà ce que l'on peut dire. Est-ce que tu veux t'exprimer sur le travail purement photographique? Ou peut-être après, si vous avez des questions vraiment sur la charte graphique qu'on a pu avoir. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt pour le film? Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de regarder le film. On va peut-être essayer d'avoir un peu plus d'obscurité dans la salle. De toute façon, le film peut être vu sur YouTube. On est content parce que, sans aucune publicité, on en est déjà à 1400 vues. Donc, alors qu'il n'y a aucune publicité. Et c'est uniquement le réseau des universitaires, des chercheurs indépendants et des étudiants qui font vivre ce projet. Je vous remercie.